voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Penaï Traoré.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 7 milliards de voisins. Dans deux jours, c'est le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. L'égalité entre l'homme et la femme passe-t-elle aussi par le congé de parentalité? En France, les papas ont droit à seulement 11 jours de congé à la naissance d'un enfant, alors qu'en Norvège, ils ont droit à un congé paternité d'au moins 3 mois. 70% des pères prennent ce congé pour s'occuper de leur bébé. Et en France, ils sont près de 4% à seulement prendre ce congé de paternité. La paternité à la Scandinave, plus égalitaire entre les hommes et les femmes, est-elle un modèle exemplaire? Est-il duplicable en France? Quelles sont les vertus du congé parental alterné? Et vous, les voisins et les voisines, y a-t-il un congé paternité dans votre pays? Comment cela fonctionne-t-il? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Et nous écouterons Alix L'Hospital qui a tendu son micro pour recueillir le témoignage d'une Suédoise vivant en France. Et tout de suite, nous avons des messages d'auditeurs sur les réseaux sociaux. Prudent de Goma à RDC, il nous dit 3 mois pour s'occuper de leur bébé. Et que font-ils? Que font leurs épouses? Thiou de Lomé au Togo, je pense que 3 mois, c'est trop comme congé de paternité. Car chez moi, au Togo, c'est une semaine de congé de paternité et 3 mois de congé de maternité. Et je pense qu'une semaine, c'est assez. Car le papa doit nourrir la famille et veiller à la santé du bébé. Et nous retournons à RDC avec cet auditeur de Kinshasa qui nous dit que le congé de paternité, ça n'existe pas dans son pays.
Allô RFI, c'est Joël Mukaba depuis Kinshasa. Congé de paternité, en RDC ça n'existe carrément pas. Les parents ou bien les hommes dans la famille sont des chefs, ils doivent travailler pour chercher à manger. Alors pour s'occuper des enfants, c'est la femme qui les fait. C'est quasiment inexistant. Donc je n'ai jamais vu et jamais entendu parler dans des entreprises ici, que ce soit public ou privé. Ça n'existait pas. Même pour la femme en question, c'est compliqué. Si elle n'annonce pas la nouvelle avant, au boulot qu'elle est grosse, elle peut être aussi virée et chassée du travail. Donc c'est un peu compliqué. Déjà pour l'homme, ça n'existe pas. L'homme ne peut même pas signaler qu'il est en congé de paternité parce qu'il peut tout perdre. Parce qu'ici, c'est incompréhensible. Comment un homme peut prendre un congé alors qu'il est censé travailler à tout moment pour la famille? Donc, c'est un sujet presque tabou dans des entreprises. On peut te faire virer carrément.
Nos invités, je les vois déjà réagir par rapport à l'intervention de notre auditeur. Nous avons deux invités, Tristan Champion, auteur de La Barbe et le Biberon chez l'édition Marabout et du blog Barbe à Papa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Nous recevons également Vibeke Knop-Rachlin, journaliste norvégienne. Bonjour.
Bonjour.
Alors déjà, une réaction sur les interventions de nos auditeurs?
On voit vraiment les différences culturelles qu'il y a entre les différents pays et les différents continents. On voit vraiment les différences culturelles entre les différents pays et les différents continents, puisque moi je suis français, j'ai eu 11 jours de congé paternité en France, et en Norvège, qui est un pays très avancé, ou qui offre 10 mois de congés parentaux à se répartir entre les parents, 3 mois donc pour le père, 3 mois pour la mère et 4 mois à se répartir comme on le souhaite. Et quand j'entends aussi les réactions, 100% du salaire est couvert pendant cette période, oui. Donc le chef de famille, entre guillemets, continue à récupérer son salaire.
C'est très attractif.
C'est très attractif, donc on peut prendre un congé paternité et s'occuper de sa famille si l'État, forcément, investit dedans.
Vibeke, Rachlin.
Je crois aussi que je comprends l'attitude de nos auditeurs, parce que c'est vrai que selon les pays, c'est pas, entre guillemets, bien vu que le père, tout d'un coup, s'absente de son travail pour s'occuper de son enfant.
Même en Europe, hein,
oui, même en Europe, même en France, à la rigueur. Si quelqu'un, parce qu'en France, il y a certes les 11 jours, mais on peut aussi volontairement choisir le congé de paternité, oui, qui, à ce moment-là, peut être beaucoup plus long, mais avec des revenus beaucoup plus bas. C'est pas du tout 100%, c'est très peu. Et à ce moment-là, j'ai entendu qu'il y a des hommes qui disent « Ah ben, de toute façon, moi, je n'oserais pas parce que j'ai peur de ne pas retrouver mon travail. »
Tristan Champion, oui, vous avez connu, vous, les deux modèles en France et en Norvège, puisque vous avez eu un enfant en France et l'autre en Norvège.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'en France, la première réaction, c'est si je m'arrête longtemps pour m'occuper de mon enfant, quel va être l'impact pour ma carrière ? Est-ce que je vais rater une opportunité professionnelle ? Quelle image je vais donner de moi-même à mon entreprise ? Alors qu'en Norvège, comme 70% des hommes, oui, comme vous l'avez dit, prennent ce long congé, en fait, la norme est installée et on ne va pas vous juger sur vos ambitions professionnelles si vous prenez 2, 3, 4 ou 5 mois de congé paternité. Le système est vraiment établi.
Et là, vous avez découvert ce que vivent les femmes ou ce qu'elles subissent quand, oui, elles vont en congé de maternité.
Exactement, parce qu'en plus, je me suis retrouvée seule avec mon bébé pendant 5 mois. Et franchement, ce n'est pas facile de s'occuper d'un bébé aussi longtemps parce que, de manière générale, mon premier enfant, je m'en occupais, mais beaucoup moins que ma femme. Alors que le deuxième, c'était moi tout seul, du matin jusqu'au soir, et la nuit aussi, parce que ma femme travaillait, et moi, j'étais à la maison pour m'en occuper. Donc la nuit, quand elle se réveille, c'est le père qui s'en occupe.
Vibeke, Racheline, c'est quoi ce congé parental alterné, ce modèle norvégien, entre les deux parents ?
C'est quelquefois, quand vos auditeurs entendent ce dont on parle, ils se disent « Ah, c'est le rêve, c'est fantastique, oui, les Norvégiens sont vraiment gâtés ». Oui et non, parce que c'est quelque chose qui a été obtenu de haute lutte. Les femmes norvégiennes ont battu le pavé pendant des années pour obtenir d'abord un vrai congé de maternité, oui, et ensuite, avec les pères qui souvent étaient très demandeurs, le nouveau congé de paternité. Donc, c'est vrai qu'il faut y penser que ce n'est pas un cadeau qui est venu du ciel.
Oui,
c'est
important, il faut se battre pour pouvoir l'arracher.
Voilà.
Mais le modèle, comment il se présente ? Un congé quelques mois pour la mère, pour le père ?
C'est ça, c'est trois mois pour la mère. Je crois même que c'est obligatoire, non, que ça soit la mère d'abord. Mmh. Donc, 3 mois pour la mère, 3 mois pour le père, et ensuite, les 4 mois restants à se partager entre les deux. Mais j'ai envie de dire quelque chose, parce que Tristan disait qu'on était, on n'était pas sûr comment ça allait être vu par les collègues de l'entreprise, etc. En Norvège, c'est le contraire.
Si vous ne prenez...
Non, mais si vous ne prenez pas le congé de paternité, c'est là que vous êtes mal vu.
Ça ne joue pas alors sur la carrière. C'est plus cela, l'inquiétude des hommes.
Exactement. Et en fait, ce qui est très fort dans le modèle norvégien, c'est que si vous êtes un homme de 30 ans ou une femme de 30 ans et que vous cherchez un travail, potentiellement la femme, dans beaucoup de pays dans le monde, peut subir une discrimination parce que l'employeur va se dire « Ah, elle peut me claquer des doigts et va s'absenter pour un congé maternité, alors je ne vais peut-être pas l'embaucher par rapport à un, oui, homme qui est sûr. » En Norvège, cette réaction n'est pas possible puisque l'homme peut s'absenter tout autant.
Mais vous, d'ailleurs, au début, vous étiez réticent.
Ben moi,
parce qu'il y avait une promotion qui vous pendait au
nez. Oui, et j'avais très peur de perdre cette promotion parce que ce n'était pas mes codes. Moi, je viens de la France. Dans la France, c'est un peu plus traditionnel. Si je dis ça à mon employeur, j'ai peur de mal me faire voir. Alors que là, ma chef m'a dit « Mais Tristan, ne t'en fais pas. On est habitué à ce que les hommes prennent des longs congés. Ça n'impactera pas ta carrière. » Et ça m'a vachement rassuré, pour être honnête.
Vibeke, Racheline, vous avez vécu, est-ce que cette pression sur la carrière en tant que femme, vous l'avez vécu pendant ces congés, quand vous preniez vos congés ?
En fait, j'étais déjà en France,
oui,
donc ça ne s'est pas vraiment posé pour moi. Et comme je suis journaliste et que je travaille plutôt, enfin j'ai mon bureau, on va dire, à domicile, ce n'était pas vraiment la même chose. Mais... pour revenir à cette histoire de carrière, c'est vrai que c'est même écrit aussi dans la loi que quelqu'un, que ce soit l'homme ou la femme, qui prenne en Norvège le congé de maternité ou de paternité, oui, ils doivent retrouver exactement le même poste au même salaire que quand ils ont quitté.
Ça veut dire qu'ils n'ont pas la peur qu'il y a, le risque de,
voilà,
perdre son boulot.
Il
n'existe pas cette peur. Elle n'existe pas, cette peur-là.
Alors, il existe quand même un, oui, tout petit peu, parce que je me suis renseignée et nous avons un poste en Norvège qui est très important. Mmh. C'est une personne qui surveille en permanence l'égalité entre l'homme et la femme. Ça s'appelle l'ombudsman. Elle a dit qu'il y a à peu près 400 cas parents où ce n'est pas le cas. Ou par exemple, une femme qui était directrice d'une société se retrouve à faire des cartons après son congé de maternité. Mais c'est vraiment exceptionnel et on peut porter, bien sûr, ce cas devant les tribunaux.
Tristan Champion, comment avez-vous réagi quand votre compagne vous a proposé ce modèle?
J'étais un petit peu réticent, mais j'étais quand même curieux et j'avais quand même aussi de relever le défi. 5 mois seul avec un bébé, j'étais un peu sur mes gardes, mais j'avais surtout peur de m'ennuyer avec un bébé qui a si peu d'interactions pendant 5 mois. Qu'est-ce que je vais faire avec? Et c'est pour ça que j'étais un peu réticent. Je projetais
d'isolement. C'était un vrai décalage pour vous entre le modèle décalage. Français et le modèle norvégien.
Exactement. Et j'ai découvert qu'en fait, la Norvège pense vraiment à beaucoup de choses parce qu'elle met en relation les parents en congé. Ce qui permet de ne pas passer tous ces moments seuls avec son enfant, mais d'avoir des activités qui sont organisées avec d'autres pères, en congé paternité.
Qui gardent leurs enfants.
Donc on est en troupe, on est entre pères, ensemble, en poussette, à se faire des balades dans la forêt d'Oslo, à aller à la mer, parce qu'il y a la plage à Oslo, il faut le savoir.
Et à part ça, qu'est-ce que ce modèle a-t-il changé d'autre dans votre vie? Dans votre perception
beaucoup
de la famille
beaucoup plus d'implication de ma personne envers mes enfants. Je suis beaucoup plus impliqué dans l'éducation de mes enfants. Je suis beaucoup plus attentif aussi leur donner le bain, leur changer les couches, tout ce qui est autour de la nourriture. Je suis beaucoup plus dynamique,
plus investi,
force de proposition. C'est plus ma femme qui me dit « Tristan, il faut changer la couche ». C'est moi qui y vais de moi-même.
Et Vibeke, Racheline,
oui.
En tant que Norvégienne, vous avez vu aussi le modèle français et les hommes en France. Qu'est-ce que ça vous fait de voir un Français qui a vécu à Oslo et qui est épaté, je veux dire, fier d'avoir accompli cela alors que ça peut paraître comme normal?
Je trouve ça formidable. Et je suis sûre que nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, les hommes, ils doivent l'envier d'avoir cette possibilité. Maintenant, quand même, petit à petit, les choses sont en train d'évoluer, même en France. Et j'ai vu qu'il est dans les cartons du gouvernement de prolonger le congé de paternité de 11 jours à un mois. Mais je ne suis pas sûre que ça soit vraiment une amélioration parce qu'il propose, dans ce cas-là, que ça soit avec la femme.
Oui.
Pendant le premier mois. C'est bien qu'elle ne soit pas seule, ça d'accord, parce que c'est vrai que c'est une charge énorme pour une femme qui vient d'accoucher, d'être toute seule à s'occuper de son bébé. Mais à la limite, moi, je dirais qu'ils n'ont rien compris.
C'est encore très peu un mois par rapport à tout ce que propose la Norvège.
D'abord, un mois, c'est trop court. Et ensuite, ce n'est pas une bonne idée qu'ils le prennent ensemble.
Oui. Et avant de continuer, je vous propose d'écouter cette chanson.
Remember those walls I built? Baby, they were tumbling down. They didn't even put up a fight. They didn't even make up a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule that you break is the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray you won't fade away.
C'était le titre Allô de Anne Brun. Vous écoutez 7 milliards de voisins et aujourd'hui nous parlons des congés, notamment du modèle scandinave, spécialement le modèle norvégien qui met l'homme et la femme sur le même pied d'égalité pour la venue d'un enfant dans le couple. Nos deux invités, Tristan Champion et Vibeke Knoop Racheline, sont avec nous depuis déjà une vingtaine de minutes pour en parler. Une entreprise a décidé il y a 2 ans de prendre les devants à la matière à Viva France. Elle propose à ses collaborateurs un congé parentalité de 10 semaines avec maintien complet de la rémunération et des droits sans considération sur le genre et l'orientation sexuelle. On l'écoute.
La Viva est une entreprise pionnière puisqu'elle est la première entreprise au monde à proposer ce congé parentalité de 10 semaines à l'ensemble de ses collaborateurs, indépendamment de leur genre et de leur orientation sexuelle. Ce congé s'applique en cas de naissance ou d'adoption pour le deuxième parent et c'est un congé de 10 semaines entièrement rémunéré. Quand nous avons lancé ce congé en novembre 2017, nous avons eu la première année 60% de personnes éligibles qui en ont profité et aujourd'hui nous en sommes à 80%. Si nous avons mis ce congé en place, c'est pour tenir compte de l'évolution de la société, puisque ça fait maintenant 10 ans qu'on travaille sur les équilibres de temps de vie et sur l'inclusion des différents talents. Donc, effectivement, nous avons voulu, par ce congé, illustrer nos démarches d'inclusion qui sont aussi sur 3 autres axes, qui sont le handicap et LGBT Pride. Donc, ce congé de parentalité, c'est une mesure d'égalité professionnelle, puisque nous avons voulu qu'à compétence égale, il n'y ait pas par les biais la tentation de retenir une candidature masculine plutôt qu'une candidature féminine. C'est casser les biais et les stéréotypes en matière de recrutement, mais c'est aussi travailler aussi en gestion de carrière sur la place de la parentalité dans les trajectoires professionnelles. On a une démarche que je qualifierais de gagnant-gagnant pour Aviva, puisque ça permet aussi de travailler notre marque employeur et de fidéliser l'attractivité et les talents. C'est un dispositif qui s'inscrit dans notre démarche d'inclusion au sens large et ce qu'on a à notre accroche qui est l'assurance d'être soi-même. Ce n'est pas uniquement un slogan, ça se vit au quotidien.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Sylvie Chartier, directrice de Aviva France, elle parlait de la mesure que l'entreprise a mise en place pour pouvoir accompagner les parents. Qu'en pensez-vous ? Une entreprise qui s'engage de cette façon en France ?
Je trouve ça très bien. Et ce qui est bien aussi, c'est que ce n'est pas la seule entreprise.
Il y a de plus en plus des grandes entreprises qui font la même démarche.
C'est ça. Et pour l'instant, il y en a 291. Et ça concerne 25 000 salariés. Donc, petit à petit, comme je disais, on va peut-être arriver à quelque chose.
Mais ce n'est pas désintéressé, tout ça. C'est une question d'image aussi, et aussi de pouvoir conserver les salariés les plus talentueux. Tristan Champion.
Moi, je trouve que c'est louable des entreprises d'aller dans cette direction. Ça met aussi la pression sur les gouvernements pour légiférer. Mais le problème, c'est qu'après, on pourra avoir une sorte de pays à deux vitesses où il y a les entreprises qui permettent aux pères de prendre des longs congés paternité et des entreprises qui ne le font pas. Et donc, du coup, on va agrandir les inégalités, même entre les pères eux-mêmes, si jamais on ne légifère pas d'un point de vue
national. Et entre les entreprises, les petites entreprises, qui n'ont peut-être pas forcément les moyens de prendre tout cela en charge, et les grandes, les grosses entreprises qui déjà commencent à mettre cela en application, en plus déjà de ce que la loi prévoit, les 11 jours.
Tout à fait. Mmh. Oui. Tout à fait.
Et l'impact de tout ça sur l'entreprise, on voit là que ce sont les entreprises qui font le pas d'aller vers ce changement. Mmh. Est-ce que elles mesurent l'impact que cela peut avoir économiquement sur l'entreprise ?
Bon, je pense que les entreprises sont quand même déjà habituées avec le congé maternité à gérer des absences. Donc du coup, ça veut dire juste que si je sais que le père va s'absenter 4 mois, je vais mettre tout en place pour gérer une transition correctement. Donc les entreprises sont quand même habituées à ça. Et puis après, c'est comme vous dites, elles vont investir de l'argent pour ce genre de politique et attirer les talents, parce que de cette manière-là, les talents vont aller dans ce genre d'entreprise qui prennent en compte ce congé paternité.
Mais est-ce que s'il y a une loi qui oblige désormais toutes les entreprises à le faire, ça va suivre côté financier? Parce qu'en France, c'est 400 euros, si je ne me trompe pas, que le couple ou le père doit toucher quand il va en congé. Et en Norvège, c'est beaucoup plus, plus de 5 000 euros pour les deux, le couple.
Oui.
Vibeke et Archeline.
Oui, et puis c'est vrai qu'on risque complètement d'avoir un système à deux vitesses. Mmh. Et c'est pour ça que malgré tout, ça serait évidemment mieux si c'était les finances publiques qui prenaient cela en charge, parce qu'à ce moment-là, on éviterait ça, normalement. Oui. Mais on creuserait un peu plus le déficit de la France, qui est déjà assez conséquent. Donc,
Il y a une économiste, Hélène Périvier, qui a fait une étude sur quel coût ce serait pour l'État français d'aligner le congé paternité sur le congé maternité. Attention, il faut avoir en tête, c'est entre 800 millions et 1,2 milliard d'euros par an.
Est-ce que l'État français est prêt à prendre cela en charge? C'est aussi ça la question.
Oui et non, parce qu'en fait, il y a une autre question derrière ça qui est que on paye les pères pour s'occuper de l'enfant et on peut par ailleurs faire des économies sur les crèches et les places en crèche. Parce que si le père s'occupe du bébé en, mettons, de 3 mois, il est de 3 à 6 mois, c'est tout autant de places en crèche qu'on peut libérer. Aujourd'hui, il manquerait 250 000 places en crèche en France, c'est quand même énorme. Et une place en crèche coûte en moyenne 1 700 euros par mois, par enfant, à l'État. Donc l'État dépense déjà de l'argent pour les crèches. Mm-hmm. Il pourrait juste allouer cet argent vers le congé paternité ou réfléchir à cette réflexion.
Oui, allez-y.
Il y a aussi une chose spécifique pour la Norvège qu'il faut mentionner, c'est que les crèches, normalement, nous ne sommes pas loin d'avoir une place de crèche pour chaque enfant en Norvège. Bon, il y a moins d'enfants qu'en France, mais quand même. Et normalement, bon, c'est pas totalement gratuit, mais c'est relativement, enfin, c'est pas trop cher.
Et quand il n'y a pas de crèche, il y a encore une aide qui est versée au couple.
Oui, mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir qu'en Norvège, il n'y a pas de place de crèche avant 1 an.
Donc, il faut attendre.
Et il faut que les parents, à tour de rôle, prennent le congé parental. Et il faut aussi, comme j'en suis, compter sur les grands-parents. Et c'est très important, les grands-parents.
Et nous avons des auditeurs en ligne qui voudraient apporter leur contribution. On a Maxime qui est à Cotonou, au Bénin. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
D'accord. Bien, chez nous au Bénin, la loi prévoit 14 semaines pour la maternité et 3 jours pour la paternité. Dans la fonction publique, était entreprise d'État.
Oui.
Dans les autres cas, il n'y a rien de formel. Mmh. Moi, en tant que papa, j'ai plusieurs fois introduit mes demandes de congé de paternité par voie hiérarchique.
Oui.
Mais chaque fois, je n'ai pas reçu de titre de congé.
Oui.
Et c'est pareil pour les autres collègues. Donc, nous devons nous entendre avec nos chefs hiérarchiques pour aller faire quelques courses ou faire quelques heures dehors.
Maxime, vous êtes père de combien d'enfants?
4 présentement.
Vous aviez pu prendre des congés pour tous vos enfants?
Non, je n'ai pas eu de congé. Aucun. J'ai fait des demandes, mais je n'ai jamais eu un titre de congé pour pouvoir m'occuper un peu du petit ou de sa maman.
Et vous êtes enseignant dans la fonction publique ou dans le privé?
Dans la fonction publique.
Mais là, tout à l'heure, vous aviez dit que dans la fonction publique, c'est 3 jours. Et ce n'est pas automatique,
oui,
c'est trois jours.
Oui, mais il faut introduire une demande.
Elle peut être refusée ou acceptée.
Oui, mais je n'ai jamais reçu une suite.
D'accord.
Or, normalement, je dois recevoir le titre de congé, comme chez les femmes.
Tristan, champion, vous voulez réagir par rapport à ce qu'il dit?
Je trouve ça vraiment super que ça vient des hommes, la volonté de demander à son employeur de mettre en place des congés paternité. C'est comme ça que les pays vont évoluer.
Il y a la loi qui dit qu'il a droit à 3 jours, mais il fait la demande et il n'obtient rien.
Oui, mais en faisant pression, et si beaucoup de personnes comme notre auditeur font pression, c'est comme ça qu'ils vont réussir à aussi faire évoluer la loi. De mon point de vue.
En Norvège aussi, comme Maxime nous disait, il y a un problème administratif. C'est que pour avoir droit aux congés parentaux, la maman doit avoir travaillé au moins 6 des 10 mois qui précèdent l'accouchement.
Ça, c'est une contrainte.
Voilà. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, ils ont pas, les pères n'ont rien du tout. Et ça concerne à peu près 6000 personnes en Norvège.
Maxime, donc, avez-vous autre chose à ajouter?
Oui, ce que j'ai ajouté, comme votre invité le dit, moi, par exemple, ma conjointe est aussi dans la même fonction que moi. Donc, il n'y a pas quelque chose de ce genre au Bénin. Mais c'est vraiment frustrant. C'est frustrant parce qu'il faut demander la permission à son chef hiérarchique à l'effet d'être revenu, vous voyez. Et on ne jouit pas, c'est-à-dire le contact avec le nouveau-né n'est pas ce que ça devait être. Et c'est vraiment frustrant.
Merci beaucoup, Maxime, pour ce témoignage.
Merci beaucoup à vous.
Et nous recevons Nina au téléphone, Nina de Libreville. Bonjour, Nina.
Bonjour, Penaï.
Bienvenue, on vous écoute sur le congé parental dans votre pays.
D'accord, moi, au Gabon, je suis maman déjà de 3 enfants.
Oui.
C'est un sujet qui n'est vraiment pas abordé. La seule fois que j'écoutais parler de ce sujet, c'était un parent qui avait pris 3 jours. Mmh. 3 jours. Et lorsque je me suis renseignée, on m'a dit que c'est 3 jours qu'on donne au papa pour congé parental. Maman, elle a 3 mois. Plus souvent, les 3 jours que papa y pense, ce n'est pas pour aider la maman. Il est plus dans ses courses à lui. Il fait ses choses, il se repose, il est dans ses trucs. Et c'est la maman qui est à la maison, qui a toute la pression. Et moi, j'ai eu de la chance parce que moi, j'ai de la famille, j'ai des sœurs, j'ai maman, j'ai mon papa. Et puis, c'était eux qui m'aidaient, en fait.
Et votre compagnon, pour les 3 jours pour vos enfants, il les a pris ou pas?
Ils n'avaient même pas pris. Ils n'avaient pas pris. Quand je lui avais parlé, avec hurlé que « Attends, tu vas prendre 3 jours, pourquoi ?» Si, mais pour les congés, c'est écrit dans les romans, dans les magazines que j'ai lus, que les papas ont droit des congés. Et au Gabon, il n'y en a pas. Il m'a dit « Bon, autour de moi, je ne peux pas vraiment parler. » Et puis, ça fait un peu bizarre. C'est plus pour les femmes, voilà, pas pour les hommes. Et donc, ils m'aidaient plus en soirée. Mais la matinée, on laissait les enfants avec les grands-parents, avec les cousins, les tantes et tout ça. Et nous, on revenait le soir, on retrouvait les enfants.
Oui. Vibeke Racheline, vous avez quelque chose à dire à notre auditrice?
Non, oui, enfin, j'entends ce que Nina nous dit et ça me renforce dans l'idée que ce n'est pas possible si la société n'évolue pas en même temps. Et je pense que justement, le congé parental, le congé du papa, c'est quelque chose qui fait évoluer la société vers plus d'égalité. Mmh. Donc, que Nina patiente, peut-être que ça viendra dans quelques années chez elle aussi.
Et Tristan Champion, elle disait également que même si le père il prend les 3 jours, ben, la plupart du temps, c'est pour se reposer. Il ne s'occupe pas du tout de bébé. Il ne prend pas la relève.
Ce genre de comportement, aujourd'hui, ce serait assez mal vu maintenant en Norvège, par exemple. Parce qu'en Norvège, il faut avoir le comble de la virilité, l'homme viril. L'homme qui vraiment prend ses responsabilités, c'est celui qui pose un long congé paternité, qui montre à la société qu'il sait s'occuper seul d'un bébé. Ça, c'est la virilité nordique. Et là, j'entends les discours, c'est complètement différent, puisque l'homme viril, on va dire, va au travail et laisse et s'occupe économiquement du foyer. Donc en fait, on est sur des codes très différents.
Oui, et culturellement, c'est très différent. Il faut une évolution dans la société.
Exactement.
Nina, vous avez quelque chose à ajouter?
Oui, moi je pense qu'il faudrait que les hommes... J'ai l'impression que beaucoup d'hommes ne savent même pas qu'ils ont ces congés.
Oui, ils ne sont pas informés.
Et en fait, ça peut être dans le contrat, mais ce n'est pas ce qui les intéresse. Je pense que ce qui les intéresse, c'est le revenu, le salaire.
Oui.
Et je pense qu'ils doivent faire prêter attention parce que l'enfant, il a besoin de ses deux parents. L'enfant n'a pas besoin que de la maman, comme on le voit plus en Afrique, c'est la maman qui fait tout, c'est la maman qui est avec l'enfant, le papa il est au travail, il est un peu dans ses balades, et c'est la maman qui dit les enfants qui fait tout, quoi. Alors, je pense que les hommes devraient s'impliquer dans l'éducation des enfants en Afrique.
Merci beaucoup, Nina.
Je vous remercie, bonne journée.
Merci. Nous recevons Diawara de Bamako au Mali. Bonjour Diawara et bienvenue.
Bonjour madame.
Vous avez vécu en France et actuellement vous êtes au Mali. Vous avez donc vu les deux systèmes.
Absolument, j'ai vu les deux systèmes. Mais je crois que la situation au Mali, on peut l'expliquer sur deux paramètres.
Oui.
Le premier, c'est déjà un problème culturel. Les gens ont vécu, la société a évolué dans ce sens comme quoi... C'est-à-dire que l'enfant à cet âge-là appartient seulement à la maman. Mm-hmm. Alors qu'en France, il y a autre chose. Et deuxième chose, je crois qu'il y a une sensibilisation à faire par rapport, c'est-à-dire que aux hommes de voir comment se comporter, c'est-à-dire que à cette période de la vie qui est très très importante. Il suffit seulement de voir un peu la première semaine de la vie de l'enfant avec la maman, une dame très fatiguée avec même l'effort de l'accouchement, quel que soit le type d'accouchement. Et si aujourd'hui, je crois que la sensibilisation est faite dans ce sens-là, les hommes seront beaucoup plus impliqués dans la prise en charge de l'enfant à bas âge. C'est très, très important.
Vous aviez pris des congés de paternité?
Il n'y a pas de congé de paternité au Mali.
Ça n'existe pas du tout?
Ça n'existe pas du tout.
Et comment vous faites? Vous prenez quelque chose des jours sur vos congés annuels ou voilà, c'est devenu la norme dans la société? Il n'y a pas de congé?
Bon, si, il y a des congés dans la société, mais pas de congé de paternité.
Oui, moi, il y a beaucoup de vent autour de vous. Est-ce que vous pouvez mettre votre main autour de votre téléphone pour protéger
Vous m'entendez bien maintenant?
Là, on vous entend, mais il y a encore du vent. Vous nous entendez, Diawara?
Oui.
Là, ça a l'air d'être bien. On vous écoute. Voilà.
Donc, moi, j'ai dit que ça dit que je n'avais pas le congé de paternité.
Oui, oui.
Mais j'ai vraiment essayé de faire des changements dans mon horaire.
Comment vous êtes arrangé?
Voilà, c'est-à-dire que déjà, dès que je quitte le boulot, je m'occupe de l'enfant pour donner le temps quand même à mon épouse de se reposer un tout petit peu.
Oui.
Donc, j'avais appris déjà de l'autre côté à voir comment on met les couches, tout ça, comment on nettoie l'enfant. Voilà. Donc, vraiment, ça m'a permis d'être auprès de la maman, de l'aider beaucoup dans ces périodes-là. Et je vous dis que ce matin, c'est encore moi qui ai changé les couches avant de venir au boulot.
Voilà. Donc, bravo, parce que culturellement, c'est pas dans des pays africains comme le Mali notamment, changer les couches de l'enfant, c'est pas du tout ce que feraient les hommes.
Je suis très fort en la matière. Quand je le fais, l'enfant ne pleure pas. Quand c'est la maman qui fait, souvent, il y a l'enfant qui pleure. Donc, pour vous dire que...
Tristan Champion, ça vous rappelle quelque chose, oui. Le témoignage de Diawara?
Oui, et ça me fait penser aussi que, comme moi je me suis occupé seul de ma fille pendant longtemps, ce qui se passe parfois le week-end, même quand par exemple il lui arrive une petite mésaventure, elle a mal au doigt, elle va pleurer, et comme c'était moi qui m'en occupais longtemps, elle court vers les bras de papa pour chercher le réconfort, et pas les bras de maman qui d'habitude, pratiquement 100% des enfants vont chercher leur mère quand ils ont une contrariété, et donc j'avais... Passer du temps avec son enfant, c'est créer des liens avec.
Oui, on est plus, on a des liens beaucoup plus profonds avec l'enfant.
Exactement.
C'est important, ça permet même de comprendre l'enfant, d'essayer de comprendre ses envies. Quand est-ce que l'enfant a soif, quand est-ce que l'enfant a sommeil, qu'est-ce que l'enfant a besoin. C'est très important d'être
Vous êtes pour l'instauration de congés de paternité au Mali?
Absolument, absolument. Mais ça va prendre du temps pour vous ne pas vous dire que ça ne va jamais venir.
pessimiste.
Ce n'est même pas dans les idées à plus forte raison que ça rentre dans la pratique. Mais c'est quand même quelque chose de très, très important. Moi, je vous dis, j'habille mon enfant correctement et l'enfant ne pleure pas, je vous dis, avec la maman parce qu'elle a beaucoup de choses à faire, elle veut faire ça rapidement. Oui. Mais peut-être moi, je négocie beaucoup avec l'enfant, je sais quand est-ce qu'il faut faire des trucs et ça passe quoi. Vraiment, c'est important, c'est
congé. Merci beaucoup, Diawara, pour ce témoignage.
Merci, madame. Au revoir.
Merci, au revoir. Vibeke, Knoop, Rachline.
Ça a l'air d'être un papa formidable. Avec sa fille, c'est très bien. Mais c'est sûr qu'il y a... Il nous disait, peut-être ça n'arrivera jamais. Il faut espérer que oui, quand même. Mais c'est sûr que c'est un énorme combat culturel, sociétal, à mener dans ces pays-là.
Oui. Tristan Champion, dans votre livre « La barbe et le biberon », vous dites « Le congé parental alterné est un pilier incontournable de la question égalitaire entre l'homme et la femme ».
Oui, et alterné parce que quand on est un homme et qu'on se retrouve seul avec son enfant pendant 3 ou 4 mois et qu'on s'occupe de tout, en fait, on comprend finalement tout ce que les femmes traversent avec leur congé maternité.
La charge mentale, vous découvrez tout ça.
La charge mentale dont on parle souvent, qui est comment on s'occupe d'un enfant du matin au soir, mais pas que, aussi de toute l'occupation du foyer, le ménage, la vaisselle. Parce que moi, quand ma femme elle est en congé maternité et que je rentrais du travail, tout était prêt à la maison, etc. Après, quand c'est à son tour de faire tout ça, on s'aperçoit à quel point c'est pas facile, à quel point il y a beaucoup de choses à penser. Et donc, du coup, ça aide vraiment à répartir mieux les tâches domestiques à la maison et aussi à laisser les femmes s'émanciper professionnellement.
Vous aviez signé notamment une tribune, co-signé une tribune à la fin du livre. Vous dites, la nouvelle génération de pères, 54% des 18-30 ans souhaitent prendre un congé parental prolongé, mais ils sont freinés par la perte de rémunération et d'être mis sur la touche par leurs collègues. À part ça, qu'est-ce que vous préconisez d'autre pour la France, pour qu'une telle mesure soit mise en place?
Donc je préconise en tout cas premièrement l'alignement du congé paternité sur la durée du congé maternité. Je préconise de l'alterner, c'est-à-dire de garder le système actuel avec 3 mois de congé maternité et on rajoute 3 mois de congé paternité à la suite. Et on réalise des économies par la même en termes d'investissement des places en crèche qu'on libère.
Un peu sur le modèle norvégien. Oui. Vibeke Rachlin, est-ce que ce modèle il est duplicable en France? Vous qui vivez en France, vous êtes norvégienne.
Tel qu'il est, difficilement, je crois. Oui. Mais peut-être qu'il le sera dans quelques temps. Mais je vois mal. Je me répète, je suis désolée, mais il faut parallèlement et peut-être même en avance une évolution du rôle de l'homme et de la femme dans la société qui est arrivée, comme je disais, de haute lutte en Norvège et qui va peut-être venir plus graduellement en France.
Et quand même, en Norvège, ce modèle, il existe depuis 1993. Et en France, les 11 jours, c'est seulement en 2002.
Exactement. Et il faut savoir qu'en Norvège, au début, il n'y avait que 4% des pères qui prenaient ce long congé paternité. Aujourd'hui, ils sont 70%. Donc, il y a eu 30 ans pour arriver de 4 à 70%. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la nouvelle génération, les demandes vont être égalitaires. Des venues des hommes vont arriver beaucoup plus vite. Et moi, je suis sûr et persuadé, et puis même on l'entend des auditeurs, même au Mali, oui, dans tous les pays africains, qu'il y a la demande des pères d'être impliqués et que du coup, en mettant la pression sur les gouvernements, ça peut aller très vite. Et très vite, on peut voir un changement de société.
Et ce modèle norvégien n'a-t-il pas de limites? Les familles norvégiennes plaignent-elles pas?
Si, elle a des limites et... on dirait, à l'entendre, et je suis sûre que beaucoup d'auditeurs vont penser que c'est le système rêvé, oui, mais en Norvège, on ne fait plus assez d'enfants. Oui. Même avec le système peut-être le meilleur du monde, il n'y a plus assez de taux de natalité suffisant.
Mais le gouvernement incite quand même les familles à faire plus d'enfants.
Largement. Et la première ministre, qui est une femme, l'a dit dans son discours de Nouvel An, elle a dit « faites plus d'enfants ». Et, Tristan, je suis désolée, mais selon une récente enquête, il paraît que c'est le papa qui freine quand il s'agit du troisième enfant.
Parce que, en fait, peut-être que...
Réaction de Tristan Champion.
Eh oui, je vais peut-être avoir un troisième enfant moi-même, je ne sais pas. Si... En fait, le fait de se projeter en se disant « je vais faire un enfant et je vais refaire 3 ou 4 mois de congé paternité, oui, je vais encore m'en occuper », je comprends qu'au bout d'un moment, le père, il ne soit peut-être pas forcément enthousiaste à cette idée-là.
Et la mère, alors?
Et la mère, elle est peut-être plus enthousiaste que le père. Et c'est peut-être un des éléments qui fait que le taux de natalité en Norvège est moins fort. Je ne sais pas. Mais je pense que, en tout cas, les pères aujourd'hui en France, sans parler d'aller jusqu'au modèle norvégien, déjà prendre 2 ou 3 mois de congé paternité seul, c'est déjà une avancée significative.
Nous avons le message d'une auditrice, Josiane, qui est béninoise et mariée à un Français. Elle a 4 enfants. Elle dit « les mentalités sont loin de changer en France. J'ai eu la surprise d'apprendre il y a quelques années que le congé de paternité existait en France. Mais mon mari n'a pas voulu le prendre pour les 4 naissances car il est chef d'entreprise. Moi, je me suis fait licencier à mon retour de congé parental suite à la naissance de mon 3e enfant. Il faudrait proposer les promotions d'abord rapport aux salariés en congé parental. Cela apaiserait les esprits. Lors d'un entretien d'embauche, un recruteur m'a demandé si j'étais prête à faire des heures supplémentaires, quitte à abandonner mes enfants à la sortie de l'école. Je lui ai répondu que je ne l'ai pas fait, j'ai pas fait seule ces enfants.
Elle a raison, mais en même temps, le congé parental en France, c'est très mal payé. Je crois que c'est aux alentours de 400 euros par mois. Ça, franchement, il faudrait faire un effort de ce côté-là.
Tristan Champion, une réaction par rapport à ça? Tous les pères français ne sont toujours pas partants pour
Non, mais les pères français ne peuvent pas économiquement. Si on les paye 400 euros, moi, quand j'étais à Paris, que j'ai un loyer à 800, 900 euros par mois, comment je fais avec 400 euros pour m'occuper de mon enfant? L'État ne nous encourage pas à le faire. Donc, peut-être que déjà, une meilleure rémunération de ce congé parental pourrait déjà améliorer le pourcentage d'hommes qui le prennent. Oui. Et puis, je suis sûr que comme les mères aussi en bénéficieront indirectement.
Et là, c'était la réaction de Josiane, béninoise mariée à un Français. Tout de suite, je vous propose d'écouter une mère suédoise qui a élevé ses 4 enfants avec son mari français.
Je m'appelle Hélène Lachny, je suis née en Suède, j'habite en France depuis 88. On est assez cool avec les enfants et on est assez proche des enfants. Parfois, peut-être qu'on laisse les enfants décider un peu plus, c'est plus démocratique.
Et alors, par exemple, ça se manifeste comment à la maison? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire qu'avec une autre éducation, ils ne pourraient pas forcément faire?
Quand les filles étaient petites, on avait des conseils toutes les semaines où on décidait, tout le monde pouvait faire un tour de table et dire qu'est-ce qui marchait bien, qu'est-ce qui ne marchait pas bien. Et nous, on pouvait dire les parents aussi. Et puis, on tenait une sorte de... on avait des points qu'on soulevait toutes les semaines. Voilà.
Ça, c'est dans toutes les familles ou c'était vous qui aviez mis ça en place?
C'était nous, mais bon, je sais que ça se fait dans beaucoup de familles suédoises et c'est pas très étonnant. On donne une grande place à ce que pensent les enfants, leur place dans la famille, parfois un peu trop. Mes filles qui ont connu beaucoup de familles françaises ont eu des amis français disent parfois que les enfants suédois, 100% suédois, sont mal élevés.
C'est assez paradoxal en même temps. C'est-à-dire que vous êtes très présent pour eux et ils ont une très grande liberté.
Oui. Oui, c'est un peu paradoxal et c'est peut-être là où ça pose un problème parfois. Qu'on leur donne trop de place. Quand les enfants étaient petits, ils avaient le droit de venir... Chaque fois qu'ils avaient une peur nocturne, ils avaient le droit de venir dormir avec nous. Et si je disais ça à ma belle-mère, par exemple, elle n'aurait pas apprécié.
Parce que votre mari n'est pas suédois?
Non, il est français. Donc nous, on a fait une éducation un peu mélangée, certes, mais mon mari a toujours trouvé que c'était bien. Il a pris un congé parental, chose qui n'est pas très courant. Et donc j'ai repris un boulot à plein temps et c'est mon mari qui s'est mis en congé parental. Et ça, c'était très bien parce que comme ça, il a vu ce que c'était et on a pu vraiment partager. Il n'était pas à 100% en arrêt. Il avait un jour par semaine, donc il avait le mercredi, mais... Mais c'est vrai qu'il faisait beaucoup plus de choses à la maison alors que moi, je me consacrais à mon boulot. Mais c'est quand même rare de voir des papas s'arrêter de bosser. C'est plutôt encore les mamans qui s'arrêtent de bosser pour s'occuper des enfants.
Est-ce que vous vous souvenez d'un moment où vous vous êtes dit « mon fils ou ma fille est vraiment suédois »
Je sais que mes filles, elles supportent pas qu'on dise « t'es une fille, tu dois réagir comme ça » ou « t'es un garçon, t'as pas le droit de pleurer », tout ça. Elles disent « c'est vraiment bête, je comprends pas ça ». On est tous pareils, filles, garçons, on a le droit de pleurer ou pas pleurer, ou être comme ci ou comme ça. Ben, je pense que c'est l'éducation, le fait d'avoir vu les deux parents partager les tâches et pas faire de différence entre papa et maman. Un parent scandinave ne ferait jamais de châtiment corporel. Déjà, ça c'est un truc qu'on fait jamais. Ça se fait vraiment pas en Suède ou en Norvège ou en Finlande ou au Danemark. C'est vraiment banni. J'ai été au restaurant avec mon mari, c'était avant qu'on ait les enfants. Et il y avait un couple qui avait un jeune enfant, il dînait juste à côté de chez nous. Et le petit enfant, il en avait marre, il avait peut-être 1 an et demi, 2 ans. Et les parents parlaient. Et l'enfant pleurait. Et d'un seul coup, d'une rare violence, la mère ou le père, je ne sais plus lequel, s'est retourné, a mis une gifle, mais n'a même pas regardé l'enfant et a continué à parler avec son conjoint ou sa conjointe. Et ça m'a choquée. J'avais qu'une seule envie, c'était de partir. Parce que c'était tellement violent de gifler un enfant de cet âge-là sans même lui expliquer. Ça m'a vraiment marquée et je sais que j'avais dit à mon mari, ça, c'est un truc que je ne pourrais jamais faire. jamais. Et je ne pourrais pas accepter que tu le fasses non plus.
Le témoignage d'une mère suédoise qui a élevé ses enfants avec son mari français, Vibeke Knop-Rachlin, je vous voyais hocher de la tête pendant son témoignage.
Et c'était surtout au début quand elle parlait de... En fait, moi, j'appelle ça l'enfant roi.
Oui, l'enfant
roi.
Et
c'est vrai que ça, c'est totalement le cas. En tout cas, en Norvège, je connais moins bien la Suède ou le Danemark, mais j'imagine que c'est un peu la même chose. C'est exactement ce qu'elle disait. C'est que quand les enfants sont petits, on leur accorde une place phénoménale et on leur demande sans arrêt leur avis.
Oui.
Ce qui est, enfin pour moi...
L'enfant droit à tout, on lui demande son avis sur tout,
oui.
L'enfant roi, comme
quel jus de fruits tu veux ? Tu veux banane, pomme, orange, enfin
c'est une question d'éducation.
Tout. Oui.
Tristan Champion.
Je me reconnais parce que moi, je suis français et ma femme est norvégienne. Donc, dans l'éducation des enfants, quand on arrive autour de la table de la nourriture, on est très différent parce qu'elle, elle dit « s'il n'aime pas, il ne mange pas. S'il aime, il mange. » Non. À un moment donné, on a mis à table « il y a des légumes, il faut manger les légumes. Ah non, on peut mettre un peu de ketchup s'il veut de ketchup. » On est vraiment sur des mentalités très différentes.
Vous en parlez dans votre livre. Vous n'osez pas hausser le ton sur l'enfant dans la rue.
C'est très mal vu de gronder son enfant. Parce que forcément, les châtiments corporels sont strictement interdits. Oui. La fessée depuis très longtemps. Mais même hausser le ton et gronder son enfant devant le public est très, très, très mal vu. Et j'ai jamais vu un père norvégien élever la voix sur son enfant.
Merci à nos deux invités d'être passés nous voir pour cette émission. Tristan Champion, auteur de La Barbe et le Biberon chez Marabout et aussi auteur du blog Barbe à Papa. Vibeke Knop-Rachlin, journaliste norvégienne. Merci à tous les deux.
De rien.
Merci
d'être
venus
nous voir pour cette émission.
Alors, on dit quoi ?
Nous accueillons la voisine Diara Ndiaye qui présente l'émission Alors on dit quoi ? Elle va nous parler de son programme de demain. Bonjour Diara.
Bonjour Penaï.
Quel est le programme d'Alors on dit quoi de ce samedi ?
Eh bien, nous proposons à nos auditeurs un portrait d'une femme qui a fait de la lutte contre l'excision son cheval de bataille.
De qui s'agit-il ?
Eh bien, d'Aissata Camara. C'est une jeune femme née en Guinée qui fait partie de ces 200 millions de femmes et filles qui ont subi une forme de mutilation génitale féminine. Excisée à l'âge de 11 ans, Aissata est devenue une militante contre les MGF et elle est déterminée à éradiquer cette pratique.
Moi, j'ai été excisée vers 10, presque 11 ans. C'était très clair que mon corps ne m'appartient pas. Parce que dans cette société, et comme beaucoup de sociétés, si une femme n'est pas excisée, on pense que tu vas être là à te prostituer ou tu vas être là à ne pas prendre soin de ton mari et des trucs comme ça. Mais à ce moment-là, quand j'étais assise, c'était clair que mon corps ne m'appartenait pas. Et c'est vraiment un sentiment qui fait mal et je ne veux pas que d'autres femmes se sentent comme ça. Et donc c'est pour cela que je me bats.
Merci Diara pour la suite de ce reportage. Eh bien, rendez-vous donc à 11h10 TU sur l'antenne Monde et 9h10 TU sur l'antenne Afrique. À demain, merci.
Merci, à demain.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
7 milliards de voisins, c'est la fin de l'émission aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Je rappelle que vous pouvez aussi nous réécouter et écouter nos autres émissions via vos applications podcast préférées, iTunes, Google Podcasts. Vous pouvez télécharger les émissions et aussi sur l'application RFI Pure Radio. Merci de nous avoir écoutés. Lundi, vous avez Emmanuel Bastide qui vous retrouve avec le thème « Comment être heureux ». Peut-être on parlera encore des pays scandinaves qui sont le plus souvent cités comme des modèles où l'on vit heureux. Merci à toute l'équipe pour la fabrication de cette émission. Une très belle fin de semaine sur RFI. Romain Dubrac, Raphaël Lazizi, Cécile Lavelot, Delphine de Dianous, Alix L'Hospital. Merci et moi c'est Penaï Traoré.
L'épopée des musiques noires.